Bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Dans ce journal, nous reviendrons sur la mise en examen cette nuit des quatre policiers mis en cause dans le passage à tabac d'un producteur de musique à Paris la semaine dernière. Deux d'entre eux sont écroués, une affaire qui intervient alors que la colère ne faiblit pas contre l'article 24 de la loi de sécurité globale qui vient d'être votée à l'Assemblée. Plusieurs députés de la majorité souhaitent désormais que l'article soit au minimum réécrit. Nous reviendrons également sur la réouverture des commerces non essentiels ce week-end en France et puis sur le confinement bien accepté par la population. En Allemagne, où l'épidémie est toujours virulente. Et puis à la fin de ce journal, cette plainte de 6 Portugais contre 33 États de l'Union européenne pour inaction climatique. Une plainte qui devrait être jugée recevable par la Cour européenne des droits de l'homme. Les quatre policiers mis en cause pour le tabassage de Michel Zecler, producteur roué de coups, donc la semaine dernière à Paris dans les locaux de son studio, ont été mis en examen. Tous les quatre pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique et trois d'entre eux pour faux en écriture publique. Deux ont été écroués, les deux autres sont placés sous contrôle judiciaire. Désormais, l'enquête est confiée à un juge d'instruction. On rappelle que ce sont plusieurs vidéos qui ont permis de rétablir des faits jusque-là niés par les policiers, des fonctionnaires bien notés par leur hiérarchie jusque-là, selon le procureur de la République. Cette sanction tombe alors que ne désenfle pas la polémique sur la loi de sécurité globale, pourtant votée il y a 10 jours, ainsi que son article 24 qui limite le droit de filmer les forces de l'ordre, un article à nouveau contesté dans la rue ce samedi. Dans la majorité parlementaire, ils sont de plus en plus nombreux à pousser pour l'abandon de cet article 24. D'ailleurs, hier soir à Matignon, les dirigeants de La République En Marche étaient unanimes face au Premier ministre. Il faut bouger sur ce texte, selon eux. Gérald Darmanin doit, lui, passer ce soir devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Va-t-il revenir sur sa position ? C'est ce qu'espère, en tout cas. L'ancienne magistrate et députée MoDem, Laurence Wisniewski, elle fait partie des 15 députés de la majorité qui ont voté contre la proposition de loi sécurité globale. Écoutez-la, interrogée par Maxence Lambrecq.
J'entends partout sur les ondes des députés de la majorité déclarer que cette loi est mal rédigée, en tout cas surtout son article 24, et qu'il faut l'améliorer. Mais j'observe que ce sont les mêmes qui ont voté cette loi et qui l'avant-veille avaient voté le fameux article 24. Alors c'est vrai qu'il y a eu entre-temps la concomitance désastreuse entre le vote de la loi et les violences inadmissibles contre ce producteur de musique filmé par les vidéastes. Mais ceux qui ont voté l'article 24 jurent la main sur le cœur que les dispositions qu'il contient permettraient bien sûr de diffuser de telles images. Alors dans ces conditions, à quoi sert l'article 24 ? Si c'est de diffuser sur les réseaux sociaux l'adresse personnelle d'un policier, c'est évidemment déjà interdit et poursuivi pénalement du chef de menace.
La députée MoDem Laurence Wisniewski. À l'Assemblée également aujourd'hui, les députés devront se prononcer sur le budget de la Sécurité sociale 2021, un budget dont le déficit prévu explose. Il est désormais estimé à 49 milliards d'euros alors que les cotisations futures risquent elles aussi d'être revues à la baisse avec sans doute de forts taux de chômage à attendre dans les mois à venir. Côté dépenses, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé une enveloppe supplémentaire de 2,5 milliards d'euros, s'ajoutant à une hausse déjà prévue de 10 milliards, destinée notamment à ouvrir 4 000 lits d'hôpital, des financements qui devront pourvoir également aux mesures du Ségur de la Santé et aux surcoûts liés à l'épidémie de coronavirus. La pandémie qui continue sa progression aux États-Unis, où les autorités sanitaires s'attendent à un regain d'infection suite aux fêtes de Thanksgiving, et ce alors que le pays connaît déjà un pic d'hospitalisation. Plus d'1 million de personnes ont pris l'avion dans la seule journée qui a précédé la fête de Thanksgiving jeudi dernier, un nombre record depuis le début de la pandémie. En Allemagne, le nombre de cas confirmés de contamination a dépassé le seuil du million. Le confinement est prolongé d'au moins 3 semaines, avec dans certains Länder la promesse d'un léger assouplissement pour Noël. Dans la capitale, Berlin, les nouvelles restrictions sont encore plus strictes qu'ailleurs, mais une écrasante majorité de l'opinion publique allemande accepte ces restrictions, comme en témoigne ce reportage de Ludovic Piétenu.
Ces nouvelles mesures sont acceptées par 81% de la population. Elles sont nécessaires, dit cette Berlinoise qui n'y voit aucun problème. C'est le seul moyen d'aider peut-être un peu, ajoute cet homme. Mieux vaut, dit-il, dormir 4 semaines de plus et que ce soit fini. Comme lui, 39% des Allemands considèrent qu'il ne faut pas assouplir les restrictions pendant les fêtes de fin d'année. La stratégie est jugée risquée par ce virologue à la télévision. Ce sont de nouvelles règles trop court-termistes basées sur l'espoir d'un vaccin. Il critique le fait de laisser partir les gens en vacances. Gabriel Richard Mollard, docteur en droit européen, spécialiste des questions franco-allemandes.
Il y a une acceptation des mesures publiques à partir du moment où elles sont portées par les grandes forces politiques, qui est bien supérieure à la nôtre en France. Et il y a certainement un focus au niveau de la communauté d'intérêt des individus. Par exemple, les gens qui sont dans les milieux économiques vont voir qu'il y a un intérêt à ce que les mesures soient franches pour que, à terme, l'économie puisse repartir beaucoup plus correctement que si c'était fait à moitié.
Cette très large acceptation des mesures de restriction tient aussi à la plus grande confiance de l'opinion envers ses dirigeants et en particulier la chancelière Angela Merkel.
Ludovic Piétenu. Dans l'état du Borno, dans le nord-est du Nigeria, le bilan ne cesse de s'alourdir. Il concerne des dizaines et des dizaines de paysans tués alors qu'ils travaillaient dans leurs champs, sans doute par des militants islamistes. 110 seraient morts, dont plusieurs décapités. Selon Amnesty International, 10 femmes manquent également à l'appel. Aucune revendication pour l'instant, mais ce genre de massacre ressemble à ceux perpétrés par les groupes Boko Haram ou ISVAP, tous deux actifs dans la région. Depuis 10 ans, ces attaques terroristes ont fait 30 000 morts dans le pays. Cette dernière attaque est la plus violente de l'année contre des civils. Une nouvelle action en justice climatique, celle initiée par 6 Portugais qui devraient être jugés recevables aujourd'hui par la Cour européenne des droits de l'homme. Ils portent plainte contre 33 États, dont la France, pour n'avoir pas respecté leurs engagements climatiques. Une nouvelle plainte qui témoigne de la prise de conscience par les tribunaux, de l'urgence climatique, mais aussi du fait que ce genre de contentieux dans le monde est en train de se développer. Véronique Reberotte.
Les plaignants, 4 enfants et 2 jeunes adultes de nationalité portugaise âgés de 8 à 21 ans, tiennent pour responsables 33 pays, tous ceux de l'Union européenne, mais aussi la Norvège, la Suisse, la Russie, la Turquie, le Royaume-Uni et l'Ukraine, tous responsables de l'aggravation de la crise climatique. Ils estiment que ces pays ont échoué à faire leur part afin d'éviter une catastrophe climatique qui compromet l'avenir des générations présentes. La Cour européenne des droits de l'homme devrait annoncer qu'elle accorde la priorité à cette affaire en raison de l'importance et l'urgence des questions soulevées en violation de son article 3. L'article 3 stipule « Nul ne doit être soumis à la torture, à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». On peut en déduire que la Cour estime que les effets du changement climatique sur les jeunes Portugais sont si graves que leur droit, selon cet article, est potentiellement violé. Les jeunes plaignants témoignent tous de leurs difficultés à vivre, à respirer, dans un pays soumis chaque année à des records de chaleur et de graves incendies. Si la procédure aboutit, les pays seront légalement tenus de revoir leur plan climatique, d'accélérer leurs actions climatiques et celles aussi de leurs multinationales.
Et l'on précise que la Cour européenne des droits de l'homme s'est déjà prononcée sur des affaires d'atteinte à l'environnement, mais jamais sur des affaires liées au climat. Retour en France où les magasins de jouets, de prêt-à-porter, les libraires ou encore les coiffeurs ont rouvert samedi, alors que le gouvernement a décidé d'augmenter les aides pour les entreprises contraintes de rester fermées. Il a également annoncé qu'il faciliterait les dérogations pour l'ouverture le dimanche pour tenter de rattraper le chiffre d'affaires perdu lors de ce mois de fermeture. En attendant, quel bilan pour ce premier week-end? Eh bien, à peu près le même que lors du premier déconfinement, c'est-à-dire pas trop mauvais. Écoutez à ce sujet Johan Petiot, président de l'Alliance du Commerce. Il est interrogé par Laura Dulieu.
Ce que nous observons pour cette réouverture est à peu près la même situation que celle que nous avions observée lors du premier déconfinement, avec d'abord, c'est vrai, une baisse de la fréquentation, mais celle-ci est relative puisqu'on se compare au Black Friday de l'année dernière, qui avait été une très grosse journée d'activité. Donc c'est normal que la fréquentation soit en baisse cette année. Et cette fréquentation, elle s'est plutôt orientée, comme pour le premier déconfinement, sur le marché de l'enfant, qui a très bien fonctionné encore cette fois-ci. Et vers les zones d'activité commerciale, les zones d'activité commerciale qui sont en périphérie ont davantage fonctionné que des espaces clos. Ceux qui, à l'inverse, ont moins bien fonctionné, c'est en effet les centres commerciaux et les centres-villes qui ont un peu plus souffert. Les clients sont revenus vers les magasins, c'est vrai, en moins grand nombre, mais ils étaient là, donc on est optimiste sur cette fin d'année.
Le temps de ce lundi 30 novembre, la journée sera marquée par une grisaille froide et épaisse ce matin sur la moitié nord, brouillard fréquent, parfois givrant sur le nord-est. En journée, le temps restera maussade de la Bretagne à l'Île-de-France et à la frontière belge. Sur les plaines du sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, le ciel restera encombré ailleurs au sud du soleil. Les températures des gelées ce matin sur le nord comptaient au plus chaud de 3 à 7 degrés sur le nord, 7 à 12 en général sur le reste du pays.